Alors, ce soir, nous avons le plaisir donc d'accueillir avec nous Luc Blanchet, qui est directeur de recherche au CNRS et qui travaille au GRECO, qui est un laboratoire que nous avons accueilli à l'IAP dans nos murs depuis maintenant trois ans, composé essentiellement de chercheurs qui travaillaient autrefois à Meudon, dans un autre département qui s'intitulait DARC, département d'astrophysique, relativiste et cosmologie, je crois, quelque chose comme ça. GRECO, le GRECO est le nom du nouveau département qui signifie gravitation et cosmologie, c'est un acronyme pour donc décrire ces deux types d'activités. Luc travaille essentiellement sur les problèmes d'ondes gravitationnelles, donc ça va être l'objet de sa conférence ce soir. Il a obtenu le prix Langevin de l'Académie des sciences pour ses travaux, je crois que c'est il y a deux ans, un an ou deux ans. Voilà. Bien, merci.
Merci. Merci. Alors, dans l'arsenal théories de la physique, il y a deux théories qui décrivent le phénomène de la gravitation, deux théories célèbres, qui sont d'abord la théorie de Newton, qui a été formulée par Newton essentiellement dans les Principia de 1687, et la relativité générale obtenue par Einstein en 1915. La théorie de Newton a été basée sur des lois de la dynamique qui avaient été trouvées par Galilée à l'aide de ses expériences sur la chute des corps quelques années avant, et notamment sur la loi de la dynamique de Galilée, qui nous dit qu'un corps qui est soumis à une force d'origine quelconque va être accéléré et que son accélération va être proportionnelle à la force à laquelle est soumis ce corps. Et on aura aussi un coefficient de proportionnalité dans cette loi qui va être lié aux propriétés du corps en question, et c'est un coefficient de masse, ou quelquefois appelé la masse inertielle. D'autre part, dans la théorie de Newton, on a la loi de la gravitation de Newton, bien sûr, qui nous dit que, étant donné un corps placé dans un champ de gravitation, par exemple le champ de gravitation de la Terre, petit g, qui peut être représenté par une flèche dirigée vers le centre de la Terre, eh bien, un corps placé dans un champ de gravitation petit g va être soumis à une force gravitationnelle, cette fois, proportionnelle au champ, et il y aura aussi un coefficient de masse rentrant dans cette équation qu'on appelle quelquefois la masse gravitationnelle. D'autre part, la théorie de Newton nous dit quelle est l'expression, nous donne une expression explicite pour le champ de gravitation engendré par une masse, et il nous dit que le champ doit être proportionnel toujours à la masse, et qu'il est inversement proportionnel au carré de la distance à cette masse. C'est la fameuse loi de l'inverse du carré de la distance. Si un corps ressent les effets d'un champ de gravitation à une distance d qui est produit par un corps à une distance d, et qu'on multiplie cette distance par un 2, j'éloigne mes deux corps par un facteur 2, eh bien l'intensité du champ de gravitation va décroître par un facteur 2 au carré, 4, va décroître par un facteur 4. C'est la loi de l'inverse du carré de la distance. Alors, le grand apport de Newton dans les Principia, ça a été de montrer que cette loi de l'inverse du carré de la distance, qui était en fait connue plus ou moins par plusieurs physiciens de l'époque de Newton, mais ça a été de prouver que cette loi, en 1 sur R2, permet d'expliquer les lois de Kepler, que Kepler avait trouvées de façon empirique à l'aide des observations précédentes de Tycho Brahe, qui décrivaient le mouvement d'une planète autour du Soleil. Et notamment la loi qui dit qu'une planète doit décrire une ellipse autour du Soleil et que le Soleil occupe le foyer de cette ellipse. Alors, quand même, il faut remarquer que la théorie de Newton, c'est une vraie théorie de la gravitation. Ce n'est pas comme les lois de Kepler qui permettent de décrire, par exemple, une planète isolée tournant autour d'un point fixe, le Soleil, si vous voulez. Mais la théorie de Newton permet de décrire le mouvement de n corps, à condition que ces n corps soient soumis à des forces gravitationnelles uniquement. Et on peut, par exemple, décrire le mouvement de 9 planètes tournant autour du Soleil, et puis on peut prendre des tas d'effets en compte, par exemple, si le Soleil a un effet d'aplatissement, eh bien, on peut calculer en théorie de Newton quel va être l'effet de l'aplatissement du Soleil sur les orbites des planètes autour du Soleil. Donc tout ça, ça a mené à une nouvelle science qu'on a appelée la mécanique céleste et qui est toujours poursuivie actuellement. Donc quelque chose de très très riche, toutes les conséquences de la théorie de Newton pour le mouvement les effets du problème des solutions du problème des n corps, par exemple, en théorie newtonienne, qui est très intéressant. Alors, d'autre part, on a la relativité générale, qui, elle, est venue par une série d'expériences de pensée dans ce qu'on a appelé, dans ce que Einstein a appelé, dès 1907, le principe d'équivalence. Le principe d'équivalence est lié à une observation qui est propre à la force gravitationnelle, qui est l'observation que tous les corps dans un champ de gravitation sont accélérés de la même manière, indépendamment de leur masse, indépendamment de leur structure interne. C'est une observation que Galilée a particulièrement décrite très clairement, mais qui en fait était connue depuis beaucoup plus longtemps. Et Einstein a introduit dans le principe d'équivalence, qui en fait finalement résulte de cette caractéristique propre au champ de gravitation, a inclus aussi tout ce qu'on connaissait, ce que lui avait fait sur la formulation de la relativité restreinte. La relativité restreinte était un nouveau type de relativité par rapport à la relativité galiléenne qui prenait en compte le résultat des expériences dont vous avez sûrement entendu parler à la fin du 19e siècle, qui ont montré qu'essentiellement il était impossible de mesurer la vitesse de la Terre par rapport à un espace absolu, la vitesse absolue de la Terre. Et qui ont aussi montré l'invariance de la vitesse de propagation de la lumière, indépendamment de l'état de mouvement de la source de lumière. Bref, en combinant ces deux principes, le principe de relativité et le principe d'universalité de la chute libre des corps, eh bien, Einstein est parvenu à écrire le principe d'équivalence qui a mené directement à la relativité générale. Alors, la relativité générale et la théorie newtonienne sont reliés parce que la théorie newtonienne est un cas limite de la relativité. Elle s'applique dans des situations où le mouvement des corps est lent par rapport à la vitesse de la lumière. Par exemple, dans le système solaire, enfin, je vous rappelle que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Les corps dans le système solaire, par exemple la Terre, a une vitesse de l'ordre de 30 km par seconde dans son orbite autour du Soleil, ce qui fait que V sur C, le rapport de la vitesse à la vitesse de la lumière pour la Terre, est de l'ordre de 1 dix millième. Donc il est tout à fait légitime d'approximer, si vous voulez, la relativité générale en disant que finalement la vitesse de la lumière, c'est un très très grand nombre, c'est une très grande vitesse par rapport aux vitesses en jeu. Et à ce moment-là, on retrouve la théorie newtonienne et ça nous explique pourquoi la théorie newtonienne marche si bien dans le système solaire. Alors, pour revenir à la théorie newtonienne, elle était basée sur une certaine conception de l'espace et du temps comme quantité absolue, immuable. Et on va commencer par discuter, rappeler un petit peu ce que c'était que cette conception de l'espace et du temps absolu de Newton. Alors, on va simplement citer directement Newton dans les Principia. Newton dit « L'espace absolu, sans relation avec quoi que ce soit d'extérieur, c'est-à-dire que, en fait, les corps qui composent l'espace eh bien, n'influent pas sur l'espace, de par sa nature, demeure toujours semblable et immobile. On a un espace dans lequel eh bien, nos corps vont bouger, mais cet espace est défini une fois pour toutes, il est immobile. De la même façon, on a un temps absolu qui s'écoule uniformément. Alors, si on décrit cet espace et ce temps en supposant que notre espace, qui est un espace donc à trois dimensions, je vais le dessiner comme ça, je vais supprimer une des dimensions, donc je vais avoir un espèce de plan, mais il faudra l'imaginer que c'est un espace à trois dimensions. C'est un espace absolu, et puis on peut dessiner un sens d'écoulement du temps, un temps absolu. Et tous les événements qui se passent dans cet espace, à un temps donné absolu, eh bien, sont simultanés entre eux, c'est-à-dire qu'ils se produisent au même instant. Et puis de plus, il y a une hypothèse qui est faite sur cet espace. C'est que cet espace est ce qu'on appelle euclidien. C'est-à-dire que c'est un espace qui satisfait aux postulats, aux cinq postulats d'Euclide, notamment, que Euclide avait introduit dans les éléments d'Euclide, 3e siècle avant Jésus-Christ, ce qui était impressionnant. Et l'espace euclidien, eh bien, est donné par une distance. Et cette distance, la distance entre les points, est donnée par le théorème de Pythagore, c'est-à-dire c'est la distance au carré entre deux points, bah, c'est la somme des différences des carrés, des coordonnées de ces points. Enfin, sans rentrer dans les détails, on a un espace euclidien, et puis on a un temps absolu. Alors, pour illustrer ce que Newton, imaginait par espace absolu, eh bien, on peut faire une expérience. C'est l'expérience du saut de Newton. Une expérience que Newton a réellement faite. L'expérience consiste à prendre un seau que l'on remplit d'eau. Donc là, j'ai indiqué les parois du seau. Et puis, on a une anse du seau. Et puis, on y attache une corde. Et puis, on attache la corde au plafond, à un bâti fixe. Et Newton enroule la corde sur elle-même, la fait se torsader, de façon à pouvoir après la faire se dévider et puis faire tourner le seau. Alors dans un premier temps, eh bien, il maintient fixe le seau avec la corde torsadée. Le seau est rempli d'eau, il attend que l'eau soit en équilibre dans le seau, donc tous les filets d'eau sont vraiment au repos. Et puis, il lâche les parois du seau, et le seau commence à tourner, entraîné par la corde qui se dévide petit à petit. Alors, dans un premier temps, eh bien, les parois du seau tournent, mais elle va entraîner l'eau dans sa rotation par des effets de viscosité, mais les effets de viscosité vont s'établir au bout d'un certain temps seulement. Et dans un premier temps, eh bien, l'eau sera encore immobile alors que les parois du seau vont tourner. Et puis, au bout d'un certain temps, eh bien, la viscosité de l'eau fait que l'eau est petit à petit entraînée par les parois du seau en rotation. Et puis, au bout d'un certain temps, eh bien, l'eau tourne en même temps que le seau. Elle est en co-rotation avec le seau. Et Newton observe à ce moment-là que la surface de l'eau s'incurve. Et il en déduit qu'il y a à ce moment-là apparition de force, qu'on peut appeler dans le langage moderne des forces inertielles, parce que l'eau est en rotation par rapport à l'espace absolu. C'était la conception qu'avait Newton de l'espace absolu. Alors, cet espace a été, même du temps de Newton, a été relativement critiqué pour des raisons philosophiques, notamment par Leibniz et Berkeley. Mais la première critique vraiment constructive de cet espace absolu de Newton est venue d'un philosophe allemand qui s'appelait Mach, dans les années 1800, fin du 19e siècle, qui a fait remarquer qu'en fait, ce qui compte dans l'expérience du saut de Newton, c'est que l'eau est en rotation, non pas par rapport à un espace absolu, qui en fait, un espace absolu qui en fait n'existe pas, d'après Mach, mais que ce qui compte, c'est que l'eau soit en rotation par rapport à une espèce de distribution de matière dans l'univers. C'est-à-dire qu'à une distribution globale, ou une distribution moyenne de matière dans l'univers. Mach remarque que dans l'univers, on va avoir des étoiles, en très grand nombre. Elles seront nombreuses, mais elles seront aussi en très grand nombre. Et puis on va avoir des masses proches, comme par exemple la masse de la Terre. Et que cette distribution de matière définit en fait un référentiel pour nous, ici, dans notre laboratoire par exemple, dans lequel eh bien, il n'y a pas de ces forces inertielles. Et ce référentiel, eh bien, c'est celui qui est en moyenne, dans un état sans état de rotation ou sans état d'accélération par rapport à la distribution de matière dans l'univers. Alors, pour se convaincre, disons, qu'il y a quelque chose là-dessous, réellement, eh bien, on peut soi-même faire l'expérience. On va sous un ciel la nuit, sous un ciel étoilé. On regarde les étoiles. Et on voit que les étoiles sont plus ou moins au repos. Enfin, elles sont exactement, enfin, disons, tant qu'on est dans le temps d'observation, elles sont exactement au repos. Et on s'amuse à tourner sur soi-même, à pivoter sur soi-même. Et en pivotant sur soi-même, eh bien, on s'aperçoit qu'on est à ce moment-là soumis à des forces. Nos bras, par exemple, qui restaient bien ballants si on était immobile, eh bien, se mettent à avoir des forces inertielles, avec cette rotation. Et puis après, on arrête notre rotation, nos bras retombent bien ballants, on n'est plus soumis à des forces, et à ce moment-là, on s'aperçoit que, précisément, les étoiles ne tournent plus. Alors que, quand nous étions en rotation, bien sûr, elles tournaient dans le sens inverse par rapport à nous. Donc, on sent bien, par cette expérience, qu'il y a soit une espèce de, il y a une coïncidence miraculeuse, soit il y a vraiment une espèce d'interaction entre la matière lointaine, les étoiles, et puis ce qui détermine, ici, dans notre laboratoire, le référentiel dans lequel on n'est pas soumis à des forces. Alors, ça a été une première indication pour Einstein, donc que, en fait, l'espace doit être influencé, quelque part, par le contenu en matière. Mais on pourrait se demander si l'idée de Mach est réellement une idée physique. C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut être testée par une expérience? Parce qu'on pourrait dire, bah, finalement, il n'y a pas de... Mach n'a jamais défini quelle était la force qui venait, qui était engendrée par cette distribution d'étoiles et qui faisait qu'elle déterminait des référentiels dans lesquels on n'était pas soumis à des forces inertielles. Eh bien, si, en fait, on peut faire une des expériences de physique qui permettent de déterminer si Newton ou Mach a raison. Alors, Newton, en fait, Mach reprend l'expérience du saut de Newton. Et il suppose maintenant que, en fait, dans l'expérience du saut de Newton, ce qui compte, c'est aussi c'est toutes les masses, la distribution de toutes les masses. Notamment la distribution de matière dans l'univers, que j'avais mis avec mes petites étoiles tout à l'heure. Ma distribution de matière dans l'univers, mais aussi les masses proches. Et Mach prend l'exemple d'un seau, donc c'est une expérience de pensée, hein, elle est irréalisable, mais il prend l'exemple d'un seau dont les parois du seau seraient très très massives. Et puis, pourquoi pas, supposer qu'en fait la masse des parois du seau dépasse en fait toutes les autres masses dans l'univers. À ce moment-là, eh bien, si on refait l'expérience, eh bien, on s'aperçoit que les effets inertiels, les forces inertielles qui vont faire s'incurver l'eau, eh bien, apparaissent quand l'eau est en état de rotation par rapport au seau, c'est-à-dire dans cette configuration-là, et pas la dernière. Parce que dans la dernière configuration, vous voyez que l'eau tourne en même temps que le seau. Donc l'état de rotation relative entre les deux, il n'y a pas de rotation relative, il y a une co-rotation, et c'est uniquement dans cette deuxième exemple, où l'eau est encore immobile et le seau tourne, où on doit avoir l'apparition de forces inertielles. Donc, pour dire que, en fait, l'expérience, l'idée de Mach est en principe testable expérimentalement. Alors, la deuxième intuition qu'on peut avoir sur la nature de l'espace et son lien et sa relation avec la matière vient du principe d'équivalence. Alors, le principe d'équivalence, c'est un principe qui avait été introduit par Einstein sur l'observation bien connue que tous les corps dans un champ de gravitation acquièrent une accélération qui est la même pour tous les corps et qui est donnée en fait par le champ de gravitation lui-même. Alors cette observation a été surtout formulée par Galilée et tout le monde connaît l'expérience du haut de la tour de Pise. Qui est en fait une expérience mythique parce qu'elle n'a jamais été faite par Galilée qui, lui, utilisait des plans inclinés. Mais si on suppose qu'on fait abstraction des effets de l'atmosphère, c'est-à-dire des effets des forces de frottement de l'atmosphère sur le mouvement des corps, et qu'on laisse tomber deux billes de la tour de Pise, l'une en plomb, l'une en bois, eh bien, elles vont arriver au même moment en bas. Elles auront acquis la même accélération dans le champ de gravitation. L'accélération des deux billes, et ça c'est valable pour n'importe quel matériau, on peut prendre une plume et un morceau de plomb, si on peut négliger, donc il faut les mettre dans le vide pour observer ça, et expérimentalement, eh bien, on voit que les corps arrivent au pied de la tour de Pise, par exemple, exactement au même moment. Alors, je vous avais parlé tout à l'heure de la loi de la dynamique. La loi de la dynamique, c'est que un corps soumis à une force va être accéléré, et puis il y a un coefficient de masse devant. Et c'est ce qu'on appelle la masse inertielle. C'est elle qui va nous dire les propriétés d'inertie du corps, c'est-à-dire sa réponse en termes d'accélération à une force donnée. Puis d'autre part, on avait la loi de Newton, la loi de la gravitation, qui nous disait que la force gravitationnelle est proportionnelle au champ de gravitation. Eh bien, si on veut introduire le fait qu'on a égalité pour tous les corps entre la chute libre, pour tous les corps, eh bien, ces deux coefficients de masse doivent être en fait égaux. Et Newton le savait bien, et Newton avait inclus ça à la main. Il avait dit, eh bien, ces deux coefficients de masse doivent être égaux, et dans les lois de Newton, eh bien, on va écrire toujours que mi égale mg. Et ça, ça nous implique que l'accélération est toujours la même, quels que soient les corps. Et c'est Einstein, en 1907, qui a montré, en fait, que, et en 1911 pour des applications, qui a montré qu'en fait, si le principe d'équivalence est vrai pour tous les corps, hein, eh bien, on peut interpréter la force gravitationnelle comme une manifestation des propriétés de l'espace et du temps. Parce que si on a réellement cette égalité pour tous les corps, eh bien, il existe dans l'espace des trajectoires privilégiées pour le mouvement des corps, qui sont les trajectoires suivies par les corps dans un champ de gravitation donné, et ces trajectoires sont universelles, elles sont suivies par tous les corps, et donc, en fait, elles traduisent une propriété de l'espace. Alors, est-ce que ce principe d'équivalence est vérifié avec une très grande précision? Eh bien, oui. Et là, j'ai pris l'exemple qui avait déjà été suggéré, en fait, par Newton, Laplace, et qui a été refait par Nordvet plus récemment avec, en fait, de façon, en fait, avec des ingrédients nouveaux, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Si on considère que... Alors bon, c'est tous les corps, ça veut dire tous les corps dans notre laboratoire, mais ça veut dire aussi toutes les planètes, hein, et notamment la Terre et la Lune. Alors si on considère le système Terre-Lune, la Lune est en orbite autour de la Terre est en orbite, le système Terre-Lune, ou le centre de gravité, plus exactement du système Terre-Lune, est en orbite autour du Soleil, si on suppose qu'on a une violation de ce principe, et on va supposer que, donc, que le rapport de la, des deux masses, masse gravitationnelle à masse inertielle pour la Terre, n'est pas exactement le même que pour la Lune, on a un petit effet. Alors à ce moment-là, eh bien, ça va se traduire par une accélération de la Terre vers le Soleil qui va être très légèrement différente de l'accélération de la Lune vers le Soleil. Et, sans rentrer dans les détails, disons, on peut voir, mais enfin c'est tout à fait intuitif, qu'à ce moment-là, eh bien, l'orbite de la Lune, telle qu'elle est vue de la Terre, hein, au lieu d'être une orbite circulaire, je vais faire l'approximation que c'est une orbite circulaire, si vous voulez, eh bien, va avoir un petit effet dit de polarisation, c'est-à-dire que cette orbite sera légèrement polarisée, focalisée en direction du Soleil. Et donc on aura, en principe, une petite différence, une petite amplitude de cette polarisation qui sera mesurable et qui sera liée directement à la différence d'accélération entre la Terre et la Lune, et ceci, c'est lié exactement à la différence de rapport des masses inertielles à gravitationnelles pour les deux corps. Alors, vous me direz, est-ce qu'on connaît la distance de la Lune avec une bonne précision? Eh bien, oui. Les sondes Apollo, dans les années 60, avait déposé sur la Lune un petit réflecteur, qui a été suggéré par Nordvet. C'est un petit réflecteur, et on fait maintenant, notamment dans le sud de la France, à Grasse, on tire maintenant avec des lasers sur la Lune. On envoie des photons laser de la Terre à la Lune, et puis ces réflecteurs renvoient la lumière laser dans toutes les directions, mais de temps en temps, il y a quelques photons qui reviennent vers la Terre, et qui sont observés dans un télescope. Et en mesurant les temps d'aller-retour des photons laser de la Terre à la Lune, eh bien, on en déduit la distance, précisément, avec une bonne précision, de la Terre à la Lune. Et bon, là, j'ai noté ici qu'on connaît maintenant la distance de la Terre à la Lune au centimètre près. Peut-être que les gens de Grasse pourraient me dire qu'on fait peut-être un petit peu mieux, je ne sais pas. Mais toujours est-il que connaître la distance de la Terre à la Lune au centimètre près, eh bien, c'est très intéressant, et notamment, ça nous permet de vérifier que le principe d'équivalence est correct, avec une très très bonne précision, de l'ordre de 10-12 près, c'est-à-dire un millième de milliardième près, on sait que ceci est vrai. Alors, il y a des projets de tester ce principe dans l'espace avec une encore meilleure précision. Il y a deux projets, en fait. Il y a une expérience appelée Microscope, qui va être lancée, je pense, en 2005, et une expérience dite STEP, Satellite Test of the Equivalence Principle, qui est en fait un projet qui pourrait voir le jour aussi dans le futur. Alors, l'idée, c'est en fait de tester ce principe en utilisant un satellite en orbite autour de la Terre. Donc là, j'ai représenté le satellite, qui est en orbite, une orbite circulaire à 400 km en orbite autour de la Terre. Et le principe, c'est qu'on va mettre dans le satellite deux masses de composition différentes et on va vérifier que ces masses sont exactement accélérées de la même façon dans le champ de la Terre. Alors, vous savez que vous savez qu'en dans un satellite, eh bien, on est en état d'apesanteur. En fait, toutes les masses dans le satellite, y compris les astronautes, tombent à la même accélération dans le champ de la Terre, ce qui fait que les objets sont en état d'apesanteur. S'il y a violation du principe d'équivalence, ça ne sera plus tout à fait vrai, et notamment des masses de composition différentes, eh bien, vont être accélérées de façon différente. Alors, l'idée du satellite, c'est de prendre deux cylindres de composition différente, deux cylindres emboîtés, coaxiaux, avec pouvant bouger le long d'un même axe, du même axe. Et on va prendre ces deux cylindres, par exemple, évidemment, on ne va pas prendre un cylindre en plume et un cylindre en plomb, on va plutôt prendre du plomb et du cuivre, par exemple, ou du cuivre et du platine pour tester le principe. Et vous voyez que lorsque l'axe des deux cylindres est dirigé vers la Terre, s'il y a violation du principe d'équivalence, eh bien, la masse centrale va, par exemple, être un petit peu plus accélérée vers la Terre que la masse extérieure. Et puis, un quart d'orbite après, eh bien, on n'aura pas d'effet, parce que l'axe du cylindre n'est plus dirigé vers la Terre. Il faudra attendre encore un quart d'orbite, et puis on aura l'effet inverse. Vous voyez, la masse centrale sera attirée donc vers la droite dans le référentiel du satellite, alors qu'elle était vers la gauche, là, alors que la masse extérieure sera attirée vers la gauche. D'où on aura un effet mesurable. Dans le référentiel du satellite, eh bien, on va avoir un mouvement oscillant à la fréquence orbitale du satellite, c'est-à-dire avec une période qui correspond au mouvement du satellite sur son orbite, en une orbite. À la fréquence orbitale, eh bien, on va avoir un certain mouvement détectable, en principe, de masse. Et la précision qu'on attend sur la mesure du principe d'équivalence, et vous voyez, avec des chiffres très impressionnants, 10-15 pour Microscope, qui est en fait une expérience réalisée par le CNES en France et l'ONERA, et 10-17 qui est un projet, qui est le projet STEP. Alors, on a eu maintenant, disons, deux intuitions avec Mach qui nous disait que les propriétés de l'espace devaient être en fait que l'espace absolu ne devait pas exister et que en fait les propriétés de l'espace devaient être influencées ou même entièrement données par les propriétés par la matière que contient l'espace. Notamment, par exemple, avec Mach. Eh bien, si on a un espace qui est vide de matière, eh bien, on ne peut pas définir des notions comme la rotation ou l'accélération. Einstein en a déduit donc qu'il y a une certaine, que l'espace doit être influencé par la distribution de matière dans cet espace. D'autre part, le principe d'équivalence nous a montré qu'il existe dans l'espace des trajectoires particulières qui sont suivies par les corps qui sont en chute libre dans le champ de gravitation, indépendamment de la nature des corps, donc ce sont des trajectoires universelles, et qui donc nous donnent des propriétés qui, en fait, nous régissent les propriétés de l'espace. Et, en fait, Einstein en a déduit que l'espace devait être courbe. Alors, je vais rappeler, on va faire quelques petits rappels sur la notion de courbure. Alors, la première notion de courbure, la plus simple, c'est la notion de courbure d'une ligne dans un plan. On va supposer qu'on a un plan à deux dimensions. On a une ligne marquée là en bleu qui est tracée dans ce plan. Et puis je vais essayer de définir une notion de courbure pour cette ligne en un point haut de ma ligne. Vous savez que au voisinage de haut, eh bien, on peut définir une droite en haut, une droite qui est la droite tangente en ce point, à la ligne. Mais aussi, on peut définir une notion de cercle. Le cercle, un cercle qui sera tangent aussi à cette ligne, et qui est en quelque sorte le cercle qui est le plus près possible de la ligne. C'est en fait le cercle qu'on appelle cercle osculateur, qui est le cercle qui serre le plus près la ligne, qui serre au plus près la ligne. Bon, il y a une façon mathématique très précise de définir ce cercle, et notamment de calculer son rayon, rho. Alors vous voyez bien que si le rayon du cercle est tout petit, si on a un tout petit cercle, eh bien la ligne va être très courbée sur elle-même, sa courbure va être grande. Par contre, si le rayon du cercle est très grand, on va avoir un énorme cercle, la ligne sera très très aplatie en ce point-là, et la courbure de la ligne sera très faible. Donc il est naturel d'introduire comme courbure, comme notion de courbure, simplement l'inverse du rayon de courbure. Si le rayon de courbure qui est là devient très grand, eh bien la courbure est très faible. C'est une notion tout à fait naturelle. Alors, si on considère maintenant un cas un petit peu plus compliqué, et si on considère une surface, donc là j'ai représenté une surface à deux dimensions, par exemple la surface d'un drap à deux dimensions, c'est-à-dire plongée, si vous voulez, dans notre espace habituel à trois dimensions, et qu'on veut calculer les propriétés de courbure de cette surface en un point O de la surface, eh bien, on va définir le plan tangent, eh bien, on peut voir qu'il existe, il y a une façon mathématique de le définir, il existe deux lignes dans cette surface qui sont, en fait, les lignes principales. Et les deux lignes principales inscrites dans cette surface définissent deux cercles osculateurs et on a, à partir de ces cercles osculateurs, deux notions de courbure. 1 sur rho 1, les deux inverses des deux cercles. C'est ce qu'on appelle les courbures principales de la surface. Donc toutes les propriétés de la surface sont décrites par deux nombres en un point, les deux courbures. Et on peut avoir des surfaces, par exemple, qui sont un peu plus compliquées. Vous voyez, ici on a une surface avec un point qu'on appelle selle ou un point colle. Pour cette surface-là, eh bien, vous voyez, les deux cercles osculateurs sont de part et d'autre du plan tangent. On dit qu'à ce moment-là, eh bien, la courbure, donc si on donne un axe pour la direction de ces deux, de la perpendiculaire au plan tangent, eh bien, l'une des courbures va être positive et l'autre va être négative. Mais la notion cruciale de courbure a été en fait obtenue par Gauss en 1827. C'est ce que Gauss a appelé le théorema egregium, c'est-à-dire un théorème qui sort de l'ordinaire, tellement il est important. Et Gauss, dans la citation de Gauss elle-même, c'est que ce théorème montre qu'en fait la géométrie est une science expérimentale comme la mécanique. Alors juste, je vous dis en deux mots ce que c'est que ce théorème. C'est que tout à l'heure on a décrit les propriétés de surface par deux nombres, les deux courbures principales en un point. Eh bien, en fait, Gauss considère le cas où les propriétés de courbure sont mesurées par des petites fourmis vivant à l'intérieur de la surface. Il faut imaginer qu'on a des fourmis à deux dimensions qui vivent à l'intérieur de la surface et que ce sont elles qui font les mesures de courbure et que c'est en fait uniquement la seule chose qui compte. Finalement, ce sont nous, êtres humains, eh bien, on est dans un espace à trois dimensions, on va faire des mesures de courbure. On n'a aucune idée si notre espace à trois dimensions est plongé dans un espace de dimension supérieure. De la même façon, là, nos petites fourmis à deux dimensions eh bien, mesurent certaines propriétés de la courbure et c'est pas, elles ne vont pas pouvoir mesurer toutes les propriétés de la courbure qu'on avait obtenues précédemment, notamment les deux courbures principales. Et ce que Gauss montre, c'est que si nos petites fourmis tracent un cercle dans leur espace à deux dimensions, et mesure le rapport du périmètre au rayon du cercle, eh bien, ce rapport va être égal à 2π fois une certaine correction. Ce rapport ne va pas être égal à 2π en général, mais qu'il y aura une petite correction qui dépend d'une certaine composante de la courbure. Et en fait, cette composante, c'est ce qu'on appelle maintenant la courbure gaussienne, c'est le produit des deux courbures principales. Et Gauss montre que seul ce produit, K1, K2, est accessible, mesurable par les fourmis vivant dans l'espace, à deux dimensions. Alors, Gauss a eu comme étudiant Bernard Riemann, et Gauss a demandé à Riemann de généraliser cette notion de courbure mesurable par les observateurs vivants à l'intérieur de l'espace. C'est ce qu'on appelle maintenant la courbure intrinsèque. Il a demandé à Riemann de généraliser ça à des espaces à n dimensions. Pas seulement des surfaces à deux dimensions, mais des espaces à n dimensions. Par exemple, notre espace à nous à trois dimensions. Et le résultat de Riemann a été que, en fait, toutes les propriétés de courbure intrinsèque d'un espace à n dimensions, telles qu'elles vont être mesurées par des fourmis à n dimensions vivant dans cet espace, c'est-à-dire indépendamment du plongement de cet espace dans un espace de dimension supérieure, eh bien, sont données par un objet que j'ai marqué là. C'est ce qu'on appelle un tenseur, qu'on appelle le tenseur de Riemann. R veut dire Riemann. Et puis, vous voyez, il y a des indices qui sont là. C'est en fait une espèce de généralisation d'une matrice à quatre dimensions qui décrit toutes les propriétés de courbure intrinsèque d'une surface à n dimensions. Et Einstein, donc, en 1915, et il avait été aidé en cela par un de ses amis mathématiciens, Marcel Grossmann, dans les années 1910-1912, eh bien, a trouvé que le tenseur de Riemann, et tout ce qui avait été développé par les mathématiciens allemands et italiens sur les espaces courbes, en fait, décrites par ces objets qu'on appelle des tenseurs, eh bien, était l'outil adéquat pour écrire des équations pour le champ de gravitation. Le champ de gravitation étant interprété comme un effet de courbure de l'espace-temps, un effet de courbure intrinsèque, c'est-à-dire un effet de courbure qui est mesurable par nous, observateurs vivants dans l'espace-temps. Alors, j'ai simplement écrit pour vous montrer juste la structure, les équations d'Einstein pour le champ de gravitation. Elles sont données par l'égalité de deux de ces objets qu'on appelle des tenseurs. Dans le membre de gauche, là, eh bien, on a un objet qu'on appelle le tenseur d'Einstein qui est formé, vous voyez, à l'aide du tenseur de Riemann. Là, il y a des R. C'est une certaine combinaison du tenseur de Riemann qu'on appelle tenseur d'Einstein. Et c'est ce qu'il faut mettre dans le membre de gauche des équations. C'est la partie, si vous voulez, qui décrit la géométrie. La géométrie de l'espace-temps est décrite par cet objet, pas entièrement, mais est décrite par cet objet. Ou tout au moins, la partie relevante à la gravitation est décrite par cet objet, une partie relevante pour les équations. Et dans le membre de droite, eh bien, on a un autre objet qui nous décrit la matière qui est contenue dans cet espace. Et puis, on a une certaine constante devant qui dépend de la vitesse de la lumière et de la constante de Newton. Alors, il faut voir maintenant l'espace-temps de la relativité générale comme étant quelque chose de très compliqué. C'est un espace courbe. C'est un espace-temps. Donc là, j'ai représenté l'espace, j'ai enlevé plein de dimensions, bien sûr. J'ai enlevé deux dimensions. L'espace et le temps. Et puis, dans cette surface courbe, eh bien, on va avoir des espaces tangents à cette surface. Et en fait, l'espace tangent est un espace de Minkowski. Je ne vais pas rentrer donner trop d'informations là pour ça. Simplement, l'espace de Minkowski vous permet de retrouver la relativité restreinte en chaque point. Et puis là, j'ai décidé des petits cônes. Vous voyez, des petits cônes. Les cônes, c'est ce qu'on appelle des cônes de lumière. Ce sont les trajets de photons, la lumière, eh bien, est toujours tangente à ces cônes. C'est ce qui décrit le trajet des particules qui vont à la vitesse de la lumière. Et puis, on peut avoir des corps massifs. Alors, les corps massifs vont impliquer une certaine courbure de l'espace et du temps au voisinage de ces corps. Hein. Et puis, ils vont avoir certains mouvements compliqués, simplement. Ils vont essayer d'avoir un trajet en ligne droite, si vous voulez. Mais comme l'espace est courbe, finalement, on va obtenir des ellipses, etc. On va retrouver les lois de Newton, par exemple, en première approximation. Et puis, on peut avoir aussi des trous noirs qui sont des singularités, en fait, dans l'espace-temps. Et puis, on peut avoir des ondes gravitationnelles qui se déplacent à la surface de cet espace-temps, qui sont, en fait, des ondes produites par l'espace-temps lui-même. Et ces ondes sont aussi tangentes à ces cônes de lumière. Elles se propagent aussi à la vitesse de la lumière. Alors, il n'était pas du tout évident que cette théorie marche réellement dans le système solaire. Et il y a eu deux tests historiques très très importants pour cette théorie. Le premier test, ou peut-être le second parce que le deuxième était le premier, le deuxième test a été la vérification par Eddington en 1919 que la lumière est déviée par un champ de gravitation. Alors, si on considère, par exemple, de la lumière émise par un quasar lointain, qui va passer près du Soleil et raser la surface du Soleil, eh bien, la théorie d'Einstein prévoit que cette lumière va être déviée par le champ de gravitation du Soleil, et l'angle des déviations est donné par 1,75 seconde d'arc, qui a été mesuré plus ou moins par Eddington dès 1919, ce qui a rendu Einstein célèbre, et qui a été mesuré depuis, bien sûr, avec une très très bonne précision. Mais dès l'époque d'Eddington, l'angle de déviation qui avait été mesuré montrait déjà que cet angle était incompatible avec ce que prévoit la théorie de Newton. La théorie de Newton prévoit la moitié de cet angle. L'angle de déviation d'une particule passant près du Soleil, une particule, mettons, de masse M quelconque, parce que le M va disparaître finalement du résultat, eh bien, Newton prévoit que l'angle de déviation doit être la moitié de cette valeur. Donc, la théorie de Newton était déjà invalidée par ce test. Mais en fait, peut-être le plus joli test de la relativité. Et donc, il y a des effets relativistes plus importants pour le mouvement de Mercure. Eh bien, il était connu depuis Le Verrier, en fait, 1845, que quand on inclut... Alors, donc, Mercure n'est pas isolé. Il y a aussi d'autres planètes. Il y a notamment Jupiter, qui est la planète la plus massive du système solaire. Et il y a aussi Vénus, qui est la planète la plus proche de Mercure. Ces planètes impliquent des perturbations sur le mouvement de Mercure. Et on savait très bien à l'époque de Le Verrier, et Le Verrier avait calculé, que ces perturbations impliquaient que l'orbite de Mercure, qui est une ellipse en première approximation, eh bien en fait devait tourner au cours du temps. Vous voyez, le grand axe de l'ellipse tourne au cours du temps. Et Le Verrier avait calculé que s'il devait tourner de 532 secondes d'arc par siècle, ce qui n'est pas beaucoup, mais ce qui était tout à fait mesurable. Et en fait, dès l'époque de Le Verrier, on savait que le demi-grand axe de Mercure tourne de 575 secondes d'arc par siècle. Et donc, il y avait un écart entre la valeur observée et la valeur calculée par Le Verrier. Et ça s'est resté un mystère pendant près de 60 ans. On ne savait pas pourquoi la planète Mercure, eh bien, son demi-grand axe tournait au cours du temps légèrement plus rapidement que la valeur qui était calculée par Le Verrier. Alors, des gens ont essayé d'imaginer qu'il y avait une autre planète entre le Soleil et Mercure. D'autres gens ont essayé de supposer qu'il y avait de la poussière zodiacale dans l'écliptique, dans le plan de rotation des planètes. Il y a même des gens qui ont essayé de modifier la loi de la gravitation, de supposer que, par exemple, c'était pas la loi en 1 sur R2 n'était pas valable. Rien n'a marché jusqu'à ce que Einstein, ayant obtenu les équations de champ, il connaissait ce problème, et la première chose qu'il a faite, eh bien, ça a été de calculer la précession de l'orbite d'une planète simplement par effet relativiste. Quand on prend la théorie d'Einstein, à la limite, elle redonne la limite newtonienne pour des petites vitesses, mais après, il va y avoir des termes correctifs. Et les termes correctifs impliquaient exactement une précession supplémentaire d'origine relativiste de Mercure égale à 43 secondes d'arc par siècle calculée par Einstein, et ce qui exactement la valeur observée de la valeur calculée chez Newton 100 ans auparavant. Maintenant, on sait que la relativité générale est en fait en accord avec tout ce qu'on sait dans le système solaire, avec une très très bonne précision de l'ordre du millième ou même du dix millième. Alors, je vais peut-être maintenant passer directement à un système qui a été observé et découvert beaucoup plus récemment, qui est très intéressant pour un autre aspect de la gravitation qui concerne le rayonnement gravitationnel, dont on a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Alors, ce système est un système extrêmement intéressant. Il a été découvert par Hulse et Taylor en 1974. C'est ce qu'on appelle le pulsar binaire. C'est un pulsar que j'ai représenté là, c'est-à-dire une étoile à neutrons, c'est-à-dire une étoile faite essentiellement de neutrons, avec un petit peu de protons et un petit peu d'électrons, mais surtout de neutrons, qui a une masse comparable à celle du Soleil, en fait de l'ordre de 1,4 fois la masse du Soleil, mais qui est très très contractée sur elle-même. Son rayon est de l'ordre du rayon de la région parisienne, à peu près. C'est de l'ordre de 10 km, mettons, pour une masse comparable à celle du Soleil. Donc la densité qui règne au centre de l'étoile à neutrons est très très importante. Elle est comparable à la densité de la matière nucléaire qui règne dans les noyaux d'atomes. Hein, c'est à peu près la densité de la matière nucléaire. Et en fait, on peut voir l'étoile à neutrons, si vous voulez, comme un gros nucléon qui est fait de neutrons. Alors, c'est une étoile à neutrons, et cette étoile à neutrons, elle pulse. En fait, parce qu'elle est en rotation autour d'un certain axe, là, et puis aussi, elle a un champ magnétique, B. Il y a des lignes de champ magnétique que j'ai représentées là, et puis, ces champs magnétiques, c'est en fait essentiellement ce qu'on appelle un dipôle magnétique, il a cette forme-là. Et puis, il y a le pôle nord, là, et puis le pôle sud, qui est là. Eh bien, on pense que ces objets pulsent, en fait, le nom est assez mal choisi, mais en fait... Il pulse parce que simplement, comme il tourne, eh bien, il y a des émissions d'ondes radio dans l'axe du champ magnétique, et puis comme ça tourne, là, eh bien, ça, de temps en temps, eh bien, le pulse, enfin à chaque rotation, le pulse est dirigé vers la Terre et on observe le signal. Donc on a une onde électromagnétique radio qui se propage du pulsar là jusqu'à la Terre, sur une distance de à peu près 8000 parsecs. Hein. Donc c'est un système qui est dans notre galaxie. Et alors, ce qu'ont découvert Hulse et Taylor, dès la découverte de ce système, c'est que, en fait, ce pulsar est en orbite autour d'un autre corps, qu'on ne voit pas. On sait maintenant que c'est une autre étoile à neutrons, mais en tout cas, cette étoile à neutrons n'est pas un pulsar, elle ne pulse pas, ou tout au moins, elle ne pulse pas dans notre direction. On ne peut pas le voir. Hein. La masse de l'autre corps est aussi de l'ordre de la masse typique des étoiles à neutrons, qui est 1,4 fois la masse, une masse solaire. Et l'orbite de ce pulsar est une orbite très rapprochée. La période orbitale du pulsar autour du compagnon est de l'ordre de 7 heures, 8 heures. Toute l'orbite du pulsar binaire tient à peu près dans la surface du Soleil. La distance entre les deux objets est de l'ordre du million de kilomètres. Hein. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que comme ce pulsar pulse, et avec une très grande précision, on peut même la précision de la rotation des étoiles à neutrons est très très bonne, même comparée à des très bonnes horloges atomiques, eh bien, c'est une horloge très stable qui est en mouvement dans un champ gravitationnel intense. C'est-à-dire, c'est l'outil idéal, disons, pour tester la gravitation. Alors, il y a, tout d'abord, Hulse et Taylor ont trouvé... ont mesuré plein d'effets relativistes, comme par exemple l'avance du périhélie du pulsar binaire, et puis c'était parfaitement en accord avec la relativité. Mais surtout, ce qui a été important avec ce système, c'est que ce système a permis de montrer l'existence du rayonnement gravitationnel. Alors, je vais essayer de vous expliquer comment. Alors, on va reprendre notre espace-temps de la relativité générale. Donc c'est un espace-temps courbe. Dans cet espace-temps, eh bien, on a nos deux étoiles à neutrons qui courbent l'espace autour d'elles. Et à cause de ces effets de courbure de l'espace, eh bien, les deux étoiles à neutrons sont en orbite l'une autour d'elles. Ce n'est pas des orbites keplériennes parce qu'elles sont très relativistes, notamment elles précessent très très fortement au cours du temps, hein, de l'ordre de plusieurs degrés par an, en fait. Mais aussi, comme il y a un mouvement orbital de ces deux étoiles, eh bien, il va y avoir les perturbations que ce mouvement orbital engendre dans la surface de l'espace-temps vont en fait se propager à l'extérieur du système. C'est ce qu'on appelle une onde gravitationnelle. Une onde gravitationnelle est due au mouvement de la matière et en fait de toute forme d'énergie, un mouvement qui va créer une déformation de l'espace-temps et cette déformation de l'espace-temps, eh bien, elle se propage à la vitesse de la lumière. Donc, une onde gravitationnelle, c'est une onde de déformation de l'espace-temps. Alors, dans le cas du pulsar binaire, Eh bien, ces ondes gravitationnelles, en fait, sont des ondes de fréquence relativement basse. La longueur d'onde est assez importante, de l'ordre de 8 milliards de kilomètres, 50 unités astronomiques à peu près, 50 fois la distance de la Terre au Soleil. Ça vous donne un ordre d'idée de la longueur d'onde de ces ondes gravitationnelles. Et puis, elles se propagent à l'infini. On ne les observe pas directement, mais par contre, eh bien, on observe indirectement leur effet sur la dynamique, sur le mouvement des deux corps. En effet, si on a des émissions d'ondes gravitationnelles, on va avoir une certaine énergie qui est émise par le système sous forme d'ondes gravitationnelles, et donc notre système des deux corps va perdre de l'énergie. Eh bien, comme il perd de l'énergie, eh bien, en fait, les deux corps vont tomber l'un sur l'autre, très légèrement, bien sûr, et la période de rotation des corps l'un autour de l'autre va donc décroître très légèrement au cours du temps. Alors, en invoquant ce mécanisme, si vous voulez, on suppose qu'on a une onde gravitationnelle qui est telle qu'elle est prévue par la relativité générale. Elle emporte de l'énergie à l'infini de ce système. Eh bien, on va dire que cette énergie, eh bien, elle est perdue par le système. Donc, ça fait décroître son énergie et ça fait donc décroître sa période. Et il y a une formule que je vous ai indiquée là à titre indicatif qui nous dit, c'est la prédiction de la relativité, qui nous dit de combien la période doit décroître toutes les secondes, si vous voulez, donc dp sur dt, la décroissance de la période par unité de temps, c'est en seconde par seconde. Hein. Eh bien, cette formule, vous voyez, est très compliquée. Elle dépend des masses du pulsar et de son compagnon. Elle dépend de la période elle-même. Elle dépend de pi, par exemple, aussi. Elle dépend de la constante de Newton-Granger. Et elle dépend aussi de l'excentricité de l'orbite par ce facteur qui n'est pas du tout trivial, qui est donné par ces nombres-là, mais qui est ce qu'il est. C'est une certaine formule que les gens, après, ont comparée aux observations. Et cette formule nous donne numériquement que la décroissance de la période orbitale du pulsar binaire est de l'ordre de 10-12 secondes toutes les secondes. C'est pas beaucoup, mais ça a été mesuré par Taylor et ses collaborateurs, et c'est exactement en accord avec les observations. Donc ça nous donne, de façon indirecte, d'un certain point de vue, une preuve de l'existence du rayonnement gravitationnel. Alors, si donc les deux étoiles, nos deux étoiles, le pulsar binaire et son compagnon, tombent légèrement l'une sur l'autre, c'est-à-dire la période orbitale décroît et elle se rapproche petit à petit. Eh bien, dans quelques centaines de millions d'années, peut-être 400 millions d'années, je crois, eh bien, le pulsar binaire va fusionner avec l'autre étoile à neutrons pour former un seul trou noir. Et dans les derniers instants où le pulsar binaire, ou plus généralement deux corps, deux étoiles compactes, deux trous noirs par exemple, ou deux étoiles à neutrons, eh bien, vont être proches de fusionner, eh bien, on obtient à ce moment-là des systèmes qui vont être, si on les détecte un jour, mais tout le monde pense qu'on va les détecter un jour, qui vont être extrêmement intéressants pour le rayonnement gravitationnel. Alors, on suppose que l'on a un système de deux trous noirs, par exemple, trou noir 1 et trou noir 2. Ce système est en orbite, les deux trous noirs sont en orbite l'un autour de l'autre, et ils émettent du rayonnement gravitationnel. Ils perdent de l'énergie, leur période décroît au cours du temps, ils se rapprochent. Et à un certain moment, eh bien, ils vont être tellement près qu'ils vont fusionner pour former un trou noir. Alors là, j'ai donné ici l'orbite de ces deux trous noirs l'un autour de l'autre. En fait, vous pouvez montrer que c'est une orbite circulaire, mais ce n'est pas grave. Pendant très très longtemps, 400 millions d'années dans le cas du pulsar binaire, eh bien, les deux trous noirs orbitent gentiment l'un autour de l'autre. Simplement, leur période décroît très légèrement. Et donc, il y a des milliers et des milliers de rotations avant que les deux trous noirs soient assez près l'un de l'autre. Et puis, à un certain moment, eh bien, les deux trous noirs vont rencontrer une certaine orbite, qu'on peut définir d'une certaine façon, que je ne vais pas détailler, qu'on appelle la dernière orbite stable. Et à ce moment-là, eh bien, le système, d'abord, il va être très, très relativiste. les vitesses en jeu des deux trous noirs sont en fait extrêmement rapides, de l'ordre de la moitié de la vitesse de la lumière à cette orbite. Et puis, à la fin, après ayant passé cette orbite, eh bien, essentiellement, les deux trous noirs plongent l'un sur l'autre et forment un trou noir central, qui oscille, et puis qui, finalement, ces oscillations émettent encore des ondes gravitationnelles, et puis, finalement, le trou noir se termine sa vie dans un état stationnaire, c'est-à-dire qu'il n'émet plus, et il reste en principe avec la... Et il n'émet plus de rayonnement. Donc, on a une très longue phase d'approche, si vous voulez, et puis ensuite, tout s'accélère, et ça s'accélère vraiment très rapidement. Il y a, pendant les 15 dernières minutes de la vie de ces deux trous noirs, par exemple, 15 minutes avant la coalescence finale, la fusion finale, eh bien, les deux trous noirs sont à peu près à une distance de 500 km. 3 minutes avant la coalescence, eh bien, il n'y a plus que 100 km. Et finalement, à l'instant de coalescence, c'est à peu près 20 km, disons, si on prend des étoiles à neutrons dont le rayon serait de 10 km, à peu près. Donc, pendant 15 minutes, en fait, on a une rotation de plus en plus rapide, à des vitesses qui sont comparables avec la vitesse de la lumière, ou la moitié de la vitesse de la lumière, et on a des milliers de rotations orbitales avant la coalescence finale. Et c'est à ce moment-là qu'on attend une très très forte émission d'ondes gravitationnelles. Alors, le signal gravitationnel que l'on attend, il a cette forme-là, je l'ai essayé de le représenter le plus réalistement possible. Voilà l'onde gravitationnelle qui est émise par un système binaire de deux trous noirs, système binaire de, disons, d'objets compacts, en fait c'est soit des trous noirs, soit des étoiles à neutrons, spiralante. Spiralante vient de cette espèce de spirale que j'avais marquée juste avant, que j'avais dessinée juste avant. À cause de ces paires d'énergie, eh bien, le système décrit une spirale. Et pendant toute cette phase, eh bien, l'onde gravitationnelle qui est émise va être, donc elle sera reçue sur Terre, on espère, elle sera décrite par une certaine fonction qu'on appelle h de t, qui nous donne une mesure de la déformation de l'espace-temps au voisinage, au passage de l'onde gravitationnelle. Et ça, ça nous donne aussi, si on a un détecteur pour détecter cette onde, disons la déformation relative du détecteur au passage de l'onde gravitationnelle, si vous voulez, ce que j'ai marqué par un delta L sur L. Delta L serait le changement de longueur de mon détecteur divisé par sa longueur initiale, si vous voulez. Alors, pendant toute la phase où les deux étoiles orbitent, disons, gentiment l'une autour de l'autre, eh bien, l'onde eh bien, est pratiquement monochromatique, vous voyez. C'est par exemple c'est une sinusoïde, si vous voulez, essentiellement. Et puis, à la fin, eh bien, ça s'accélère, la fréquence augmente, et puis l'amplitude du signal gravitationnel augmente, jusqu'à ce que les deux trous noirs coalescent, et puis, à ce moment-là, ben, le signal stoppe. On a finalement un trou noir qui reste dans un état stationnaire, il n'émet plus, et on a donc un signal comme ça. Alors, c'est un signal qui va durer, mettons, 15 minutes, ce signal, on va essayer de le détecter. Et c'est l'objet des expériences qui commencent à prendre des données actuellement, qui sont des expériences dites de détection interférométrique du rayonnement gravitationnel. Alors, c'est l'expérience Virgo, qui est un projet franco-italien, enfin une expérience franco-italienne, qui est actuellement en fin de construction à Pise. Et il y a un projet américain aussi, qui s'appelle LIGO, et puis il y a aussi d'autres expériences, mais un petit peu moins grandes, disons, qui vont être un peu moins sensibles. Donc, c'est surtout LIGO et Virgo qui ont le plus de chances de détecter ces signaux. Alors, quel est le principe de l'expérience? Eh bien, le principe, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un interféromètre de type Michelson. C'est le Michelson des expériences de Michelson et Morley, dont on a parlé tout au début, qui nous montrait que la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels. Michelson, les expériences de Michelson et Morley utilisaient ce même principe. On a une source de lumière, un laser, qui envoie de la lumière sur une lame qu'on appelle séparatrice, Cette lumière va être partagée par la lame séparatrice en deux faisceaux, l'un qui va aller dans la direction d'un premier bras de cette expérience, là, et puis l'autre partie de la lumière va être dirigée vers l'autre bras. Et puis là, on a ce qu'on appelle des cavités Fabry-Pérou. Il y a deux miroirs, un en bout de bras et un à l'entrée de la cavité Fabry-Pérou. Et puis ces cavités sont des cavités résonantes pour la lumière. Elles stockent, elles emmagasinent de l'énergie lumineuse. Et puis, il y a de l'énergie qui ressort. Donc il y a en fait un faisceau de lumière qui ressort de ces cavités et puis qui retombe sur la lame séparatrice, là, et puis finalement qui est analysée à la sortie sur une photo, avec une photodiode. Et on observe en fait les différences de trajet lumineux entre la lumière dans les deux bras. S'il y a une onde gravitationnelle qui passe, eh bien, on a vu qu'elle va modifier les propriétés de l'espace et donc elle va modifier les longueurs des bras. Et on va s'attendre à avoir une modification, une variation relative de la longueur du bras, delta L sur L, c'est ce que j'avais indiqué là, qui est simplement donné par, finalement, l'amplitude de l'onde gravitationnelle. Donc, on va essayer de mesurer un delta L. Et on le mesure par interférométrie laser, c'est-à-dire qu'on fait interférer les deux faisceaux lumineux qui sont passés dans les deux bras. Et la figure des franges d'interférence, le déplacement des franges d'interférence, nous donnera une indication sur la variation de chemin optique, c'est-à-dire de longueur des deux bras. Et ça nous permettra de détecter le rayonnement gravitationnel. Alors simplement, là, j'ai fait juste une petite estimation pour montrer que ça marche, en fait, à condition d'avoir des bras de longueur très grande. Pour Virgo, 3 km. C'est donc des énormes expériences. Pour LIGO, 4 km. Il faut augmenter la longueur de façon à avoir une meilleure sensibilité. Alors, ces expériences vont bientôt commencer à prendre des données. Et, bon, disons, je reviens un petit peu là-dessus. Le but, l'un des buts principaux de ces expériences, c'est de détecter ça. L'onde gravitationnelle engendrée par une coalescence de binaires, de deux trous noirs. Alors, les expériences vont essayer de détecter ça. Ça paraît simple, mais en fait, c'est des signaux qui vont être extrêmement faibles et qui vont être complètement noyés dans le bruit de l'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, les expérimentateurs vont essayer de détecter une amplitude gravitationnelle qui est là, un petit h, qui est en fait beaucoup plus petite que l'amplitude des signaux de toutes les sources de bruit, si vous voulez, dans l'appareil. Donc il va s'agir de trouver un tout petit signal de cette nature, qui va durer d'ailleurs pas longtemps, quelques minutes, noyé dans un bruit important qui vient de toutes les sources de bruit dans l'appareil. Donc, si vous voulez, c'est là que la relativité générale intervient, parce que la relativité générale nous permet de connaître avec précision la forme de ce signal, et donc de le retrouver, si vous voulez, dans le signal observé par Virgo et LIGO. C'est un petit peu comme quand on cherche une aiguille dans une botte de foin. Eh bien, il faut qu'on ait une idée a priori de ce que c'est que cette aiguille. Ça va être une petite tige de métal avec une tête et puis une pointe. On doit avoir une idée de ce qu'on cherche avant de trouver. Et là, c'est la même chose. La relativité générale nous permet de décrire de façon très précise ce type de signaux, ce qui permet, après, par des méthodes d'analyse du signal, de les retrouver dans les expériences de type Virgo et LIGO. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie.
Merci. Merci, bravo. Je crois que tu peux sûrement indiquer à quel point ces expériences sont difficiles. Elles sont tentées
oui.
Depuis des années déjà.
Et... Oui, oui, ce sont des expériences qui ont été lancées dans les années 60 et 70 et qui commencent seulement à prendre des données. L'expérience Virgo commence à prendre des données cet automne, en fait. L'expérience LIGO a commencé déjà depuis un an à prendre des données.
C'est qu'ils sont complètement isolés de tout ce qui se passe à côté, les voitures, les trains, les avions...
Oui, Virgo, par exemple, toute l'expérience Virgo est même suspendue à des tours. Vous voyez, tous les instruments qui sont là, tous les miroirs, le laser, tous ces composants sont suspendus à des tours qui les isolent de tous les bruits, notamment le bruit sismique dû à la Terre. Bien sûr, vous avez des camions qui passent, produisent un certain bruit à des fréquences heureusement très basses, mais enfin, donc il y a des isolations très très importantes de tous les composants de l'expérience.
Merci. Maintenant, je vais passer la parole, vous passez la parole, en sachant encore une fois que tout est enregistré, donc vous attendez que je vous passe le micro et Luc Blanchet vous répondra. En général, il répond.
Bonsoir et merci pour votre présentation. J'avais cru comprendre il y a quelques mois que dans le niveau de la sensibilité de Virgo en particulier, et peut-être bien de l'expérience américaine aussi, les chercheurs étaient à la recherche, si je puis dire, de quelques ordres de grandeur d'un ou deux dans la sensibilité des appareils en question. Où en est-on exactement aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours le cas?
Oui, alors c'est vrai, disons, en fait, dès le début de la construction de ces appareils, eh bien, les gens ne pensaient pas pouvoir détecter ce type de signaux gravitationnels immédiatement. Les appareils Virgo et LIGO, actuellement, peuvent détecter des signaux de coalescence jusqu'à des distances de l'ordre de peut-être quelques millions de parsecs, quelques mégaparsecs. L'amas de la Vierge, par exemple, où on attend beaucoup de coalescence de binaires, par exemple, ou de supernova, est à une distance de l'ordre de 20 mégaparsecs. Donc, ils n'atteignent pas pour l'instant l'amas de la Vierge. Pour avoir des chances de détecter ce type de signaux, disons deux ou trois fois par an, d'après les statistiques, il faudrait aller jusqu'à des distances de 100 mégaparsecs. Donc, si vous voulez, les expériences ne sont pas encore assez précises. Alors, il y a plein de choses que les physiciens préparent pour améliorer la sensibilité des expériences. Ils vont augmenter la puissance des lasers, ils vont augmenter la qualité des miroirs, et puis il y a encore beaucoup d'autres choses qui leur font espérer. Et j'espère aussi qu'ils atteindront ces distances-là pour observer quelques événements par an, au moins de détection. Mais pour l'instant, effectivement, la sensibilité n'est pas... on ne s'attend pas à un signal tout de suite, s'il vous plaît.
Dans le cas du pulsar binaire, est-ce que la variation de la période orbitale induit une variation de la période lumineuse du pulsar lui-même?
Observer, oui, parce que on observe que le pulsar est en orbite autour de son compagnon parce que les pulses radio qui sont émis par le pulsar arrivent à des intervalles qui ne sont pas tout à fait réguliers et qui permettent de reconstituer l'orbite du pulsar binaire, si vous voulez. Ah, votre question, c'est est-ce que l'effet de réduction de la période influe sur la période des pulses du pulsar? Non, en fait. On pense que les deux étoiles à neutrons, elles tournent sur elles-mêmes, quand elles se rapprochent légèrement l'une sur l'autre, la rotation de ces deux étoiles à neutrons reste pratiquement la même. Il y a un tout petit effet, mais qui est absolument pas mesurable pour ça. Donc,
merci encore pour cette belle conférence. Il y a un petit peu de formule et tout. Pardon, monsieur, est-ce que vous pourriez préciser un petit peu, je comprends pas bien là, le delta L indice effectif, je ne sais pas, racine de L delta L.
Oui.
Racine de L delta L. Et pourquoi ce N qui est pris à 10 puissance 18?
Oui, je vous en prie. Donc j'ai essayé de, par un petit calcul, mais je ne l'avais pas détaillé, pour essayer de vérifier avec les mains que, avec ce type d'expérience, on peut effectivement détecter une amplitude gravitationnelle très basse. Alors, s'il y a une onde gravitationnelle, on s'attend à ce qu'elle soit environ au niveau 10-21. Alors, la variation de distance, la variation de longueur des bras, va être delta L, qui est de l'ordre de H fois la longueur des bras. Donc on va avoir un H fois L. Si on fait H fois L, c'est extrêmement petit. On trouve une distance de l'ordre de 10-18 mètres, soit le millième de diamètre d'un proton, et on a l'impression que l'expérience est infaisable. c'est une variation de longueur qui est extrêmement petite et complètement non mesurable, 10⁻¹⁸ mètres, 10⁻³ Fermi. Mais en fait, ce que on mesure par cette expérience d'interférométrie, c'est le déplacement, non pas d'un seul atome dans un miroir, mais de n atomes dans un miroir. C'est un déplacement collectif d'atomes. Et quand vous avez un déplacement d'ensemble collectif de n atomes, eh bien, vous pouvez montrer qu'il se rajoute, de façon très agréable, un facteur racine de n. Alors j'ai pris 10 puissance 18 atomes dans le miroir, je ne sais pas exactement si c'est le nombre correct, mais c'est un ordre de grandeur, et ça nous montre qu'en fait, le déplacement effectif qui est réellement mesuré dans l'expérience est en fait, heureusement, de l'ordre de 10 angström à peu près, c'est-à-dire de l'ordre de grandeur des distances atomiques. Et ça nous montre que c'est mesurable.
Pourquoi 10 puissance 18, excuse-moi, parce que pourquoi pas le nombre de l'Avogadro, qui me semble être plus...
C'est vraiment non, j'ai pris en fait
un miroir
une couche,
très petit.
Oui, tout à fait.
Très mince.
J'ai pris une couche très mince d'atomes à la surface de mon miroir. J'ai pas pris, j'aurais pu prendre 10 puissance 23, effectivement, mais j'ai pris juste les atomes sur la couche.
Ces détecteurs sont-ils, peuvent-ils donner la direction de la source?
Non, ils ne peuvent pas en fait. Il faut plusieurs détecteurs pour donner la direction de la source. Alors, il y aura LIGO, il y aura Virgo, et on va observer des ondes gravitationnelles venant d'une même source, et puis ces ondes vont arriver à des instants différents, donc on va pouvoir en déduire qu'il y aura une direction de la source simplement en mesurant les temps d'arrivée des ondes. Et si vous avez trois détecteurs, eh bien, vous pourrez en déduire plus d'informations, par exemple la direction elle-même. Si vous... Les détecteurs ne sont pas directionnels, si vous voulez.
Question assez simple. Dans la vue où vous nous montriez les deux pulsars en rotation, et avec une belle formule donnant, permettant de calculer,
oui.
C'est...
Oui.
Bon,
oui.
Non, j'ai pas bien vu la formule parce que j'ai pas de bons yeux, hélas.
Oui.
Il m'avait semblé apercevoir ou entreapercevoir que cette période semblait dépendre de la masse des deux objets.
Oui.
Bon, est-ce que le calcul a donc été fait en supposant avec la connaissance de ces deux masses. Est-ce qu'on connaît effectivement ces deux masses?
Bien sûr.
Est-ce qu'on connaît les éléments orbitaux?
Tout à fait, c'est une bonne question. Les masses du pulsar et de son compagnon sont en fait mesurées par cette formule-là et par d'autres formules qui donnent d'autres effets relativistes. En fait, c'est plus compliqué que ce que j'ai marqué là. On a une théorie qui prévoit plusieurs effets relativistes, dont celui-là, mais par exemple aussi l'avance d'une migrante axe de la binaire, etc. Et toutes ces formules théoriques, si vous voulez, dépendent des deux masses. Alors, on les écrit toutes, on suppose qu'on a une théorie consistante qui va être satisfaite par tous ces tests. Eh bien, en écrivant que la théorie doit passer tous ces tests, eh bien, ça nous détermine des mesures de ces deux masses, et puis ça nous détermine, si par exemple on a trois tests et deux masses, on a deux masses, donc, par exemple si on a trois tests, si on a trois formules théoriques, eh bien ça nous détermine la mesure des deux masses plus un test sur la validité de ces formules. Donc en fait, cette formule-là est utilisée en même temps que d'autres pour la mesure des masses elles-mêmes. Comment ? Oui, en fait, disons, elles sont mesurées et il se trouve qu'elles sont à peu près données par la limite de Chandrasekhar. C'est simplement une mesure. Tout à fait. Mais alors, il y a... Voilà, effectivement. Voilà, j'ai simplifié le problème, là. On a aussi des formules, par exemple, pour l'avance du demi-grand axe de la binaire. Et vous pouvez, ce que les gens font, c'est qu'ils tracent, en fait, ça se passe comme ça, ils tracent ce qu'on appelle le plan des masses. Vous allez avoir la masse du pulsar, et puis la masse du compagnon. Alors, elles sont inconnues. Enfin, disons, on a quelques informations par d'autres raisons, mais enfin, disons qu'elles sont inconnues. Eh bien, la courbe qui est là va nous donner, le test pour EP, va nous donner une certaine courbe dans le plan des masses. Donc, en fonction des masses, eh bien, le point, la mesure de P peut être n'importe où sur cette courbe. Ça va être par exemple le test pour dP sur dT. Mais on va avoir aussi le test, par exemple, pour l'avance du périastre, ce que j'avais appelé delta, dans le cas de Mercure, qui est aussi donné comme une certaine fonction des deux masses, MC et MP. Et vous voyez que la combinaison de ces deux tests nous donne des valeurs, 1,4 masse solaire, et puis une autre valeur pour la masse du compagnon. Et donc là, on n'a en fait pas fait de test, puisque finalement, on a mesuré simplement les deux masses. Ce qu'il faut, c'est avoir un troisième test, et on aura une troisième courbe, et on vérifiera que les trois courbes se rencontrent en un même point, qui est bien cohérent avec les mesures des deux masses qu'on a faites. Ça se passe comme ça, en pratique. Pourquoi deux ? Il y a deux étoiles à neutrons, oui. Ah ben l'autre, on ne sait pas. C'est peut-être un pulsar aussi, mais il ne pulse pas dans notre direction, c'est tout. Là, simplement, il n'émet pas ces pulses radio en direction de la Terre, peut-être.
Oui. Je suppose que la célérité qui est supposée aux ondes gravitationnelles, c'est celle de la lumière. Oui. Exactement ou pas? Est-ce qu'on pourra faire la corrélation ou justement voir qu'il y a un écart de corrélation sur une observation optique?
Non, alors la vitesse de la gravitation est donnée par la vitesse de la lumière, CC. Hein. La relativité générale nous indique qu'il n'y a qu'une seule vitesse pour la lumière, pour la gravitation, hein, CC. Aussi pour la relativité générale inclut la relativité restreinte, et dans la relativité restreinte vous avez un petit c qui est identifié en relativité restreinte par la vitesse de la lumière. C'est le petit c qui vient des transformations dites de Lorentz de la relativité restreinte. C'est le même c qui rentre aussi dans la relativité générale. Il n'y a qu'un paramètre de vitesse.
Autrement dit, tout...
Ben, la vitesse est la même, oui. Et là, dans le pulsar binaire, par exemple, c'est ce que vous mesurez. Vous voyez, là, vous avez ce petit C qui est là. Eh bien, ce petit C, il a été mesuré que ce petit C, le C gravitationnel est le même que le C des ondes électromagnétiques, parce que ce pulsar émet des ondes électromagnétiques, eh bien, avec une très bonne précision. On sait que la vitesse de la gravitation est la même que la vitesse de la lumière avec une très bonne précision, qui doit être peut-être de l'ordre du millième par ce test-là. Oui. Oui, tout à fait.
C'est ça. Autrement dit, ce que dit la théorie de la relativité générale, c'est que toute forme, l'énergie quelle qu'elle soit, ne peut se propager qu'à une vitesse unique, qui est la vitesse dite de la lumière. Mais c'est toujours
Il y a limite. Une vitesse limite de propagation de voilà, n'importe quelle interaction, qui est la vitesse de la lumière.
Photon.
Exactement. Voilà, exactement.
D'autres questions ?
C'est l'excentricité, excusez-moi, c'est l'excentricité de l'orbite. Hein.
Comment fait-on dans les détecteurs de Virgo ou LIGO la différence entre le phénomène qu'essayait d'observer Michelson et le phénomène des ondes gravitationnelles? Parce que Michelson n'a pas trouvé zéro. Il a eu un nuage de points qui lui donnait l'ordre de 8 km par seconde au lieu des 30 km par seconde attendus pour la vitesse de la Terre. Alors, comment détecte-t-on la...
Alors, disons, l'expérience de Michelson et Morley avait été sensible, je crois, à des vitesses relativement faibles par rapport à la vitesse de la Terre. Mais de toute façon, cette expérience a été refaite avec une énorme précision par des techniques modernes, notamment en interférométrie laser, en utilisant des lasers. Et notamment, l'un des promoteurs du projet Virgo, Alain Brier, a fait l'expérience la plus précise de type Michelson et Morley, qui a montré que la vitesse de la lumière est la même dans toutes les directions, à peu près 10-15 près. Donc il y a une énorme précision sur cette mesure de la vitesse de la lumière, hein, qu'elle est la même dans toutes les directions à 10-15 près.
Dans un domaine voisin mais un peu différent, est-ce que vous pourriez nous donner quelques mots de commentaire sur les anomalies des trajectoires des sondes Pioneer qui est dans leur éloignement du Soleil?
Alors, disons, il y a eu beaucoup de... Ce sont des sondes, peut-être on peut le rappeler juste en deux mots, ce sont des sondes qui ont été, été envoyées il y a de nombreuses années et qui sont maintenant à des distances très importantes du Soleil. Et alors, les gens de JPL, de la NASA, en analysant la trajectoire de ces sondes, observent qu'il y a une accélération anormale de ces sondes par rapport à ce qu'on attend en théorie de Newton, et qu'il y a une accélération supplémentaire assez importante, de l'ordre de 10.8 mètres par seconde carré, je crois, dirigée vers le Soleil pour ces sondes. Personne n'explique cette anomalie. Beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de spéculations là-dessus. Beaucoup de choses fausses ont été supposées aussi là-dessus, on peut le dire. Il y a beaucoup de gens qui pensent maintenant que c'est une anomalie qui se résoudra et qui est simplement due à un problème technique, si vous voulez, lié à la technologie des sondes. Notamment, il y a quelque chose qui n'a pas été tellement pris en compte dans l'analyse des sondes, parce qu'on ne le sait pas, c'est la façon dont les sondes réfléchissent la lumière. Chaque objet a un certain albédo, c'est-à-dire c'est le pourcentage de lumière qui est réfléchi par l'objet. Eh bien, on ne sait pas comment l'albédo d'un satellite comme Pioneer varie au cours du temps. C'est-à-dire qu'au bout de 15 ans, on ne sait pas quel est l'albédo. Donc il n'y a pas eu de simulation réaliste de ça. Alors, peut-être qu'il y a simplement des problèmes liés à ça.
Excusez-moi, une question qui n'a pas été posée encore derrière. Je ne saurais pas avoir tendance de privilégier les premiers rangs.
Pour ces toutes petites variations de longueur, est-ce que l'ensemble Terre-Lune pourrait servir de test ?
Oui, en fait, disons, ce serait pour des systèmes de nature différente, parce que ce serait des systèmes avec qui testeraient des ondes de longueur d'onde beaucoup plus grandes que celles qui sont testées dans Virgo. Avec la précision qu'on a sur la distance Terre-Lune, de l'ordre du centimètre, on n'a pas de valeur, ça ne donne pas une valeur supérieure au passage d'onde gravitationnelle qui soit intéressante, si vous voulez. Par contre, on l'a fait avec... avec des pulsars. C'est-à-dire on observe de la lumière venant de pulsars, eh bien, ça permet de donner des informations sur... Ça joue comme des grands détecteurs, si vous voulez, d'ondes gravitationnelles. Ça permet de donner des valeurs limites sur les ondes gravitationnelles qui passeraient entre le pulsar et nous.
À l'aide de tests, vous avez bien expliqué comment on avait la masse du pulsar et du compagnon. Cela sous-entend, bien sûr, qu'on connaissait l'excentricité avant. Alors, comment la détermine-t-on ?
Elle a été déterminée immédiatement par Hulse et Taylor. Ils ont mesuré les temps d'arrivée des pulses radio, et puis ils se sont aperçus que ces temps d'arrivée n'étaient pas régulièrement espacés, et que de temps en temps, ils étaient moins espacés, de temps en temps, ils étaient plus espacés, ce qui leur a permis de reconstituer l'orbite, si vous voulez. Donc ils ont eu la distance
à partir de la reconstitution de l'orbite.
Voilà, d'accord. Voilà.